Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». L'émission aujourd'hui sera consacrée à la question de la fracture numérique. Certaines associations parlent même d'exclusion numérique. Un facteur d'isolement face à la société quand on a du mal à utiliser Internet, à utiliser les nouveaux outils numériques ou technologiques qui sont mis à la disposition du plus grand nombre, mais dont on va voir qu'ils sont parfois difficiles à appréhender pour certains publics. Et je reçois pour évoquer ce sujet dans la première partie de l'émission Isabelle Sénécal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle plaidoyer chez les Petits Frères des Pauvres. Et avant de revenir sur notre sujet du jour, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les activités principales de l'association ?
Alors, les Petits Frères des Pauvres, c'est une association qui existe depuis 1946 et dont la mission essentielle est de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Cette mission s'effectue grâce à l'engagement bénévole. Les bénévoles des Petits Frères des Pauvres renouent le lien social avec des personnes âgées isolées, que ce soit à domicile, que ce soit en établissement et dans tout lieu où il y a de l'isolement. On intervient en milieu carcéral, on intervient également à l'hôpital, on intervient dans les foyers de vieux migrants avec des actions phares à des moments où l'isolement est encore plus cruel. Hein. Bien entendu, l'isolement c'est toute l'année, mais il y a les vacances, il y a Noël, hein, on va y arriver très bientôt, où l'isolement se fait encore plus cruellement ressentir pour des personnes qui sont seules et qui n'ont pas de relations sociales très développées.
Alors, parmi vos centres d'intérêt et parmi les réflexions que développe l'association, il y a cette question de l'exclusion numérique. Vous allez nous expliquer un petit peu comment vous définissez cette notion, à travers notamment une étude que vous aviez réalisée avec l'Institut CSA, qui notifiait que 27% des personnes de plus de 60 ans n'utilisent jamais Internet. Ce qui représente déjà en soi une forme d'exclusion dans le monde tel qu'il est et tel qu'il fonctionne. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de services, y compris d'administration, qui sont accessibles uniquement grâce à Internet ou en ligne. Et ça représente quand même déjà 4 millions de personnes. Et puis, évidemment, avec des spécificités, il y a sans doute plus de difficultés chez les plus âgés, chez les plus précaires. Comment vous définissiez cette notion ?
Alors, nous, au Petit Frère des Pauvres, on s'est intéressé à l'exclusion numérique parce que, justement, nous sommes dans une société ultra connectée. Et quand on a commencé à s'y intéresser, on s'est dit que le numérique pouvait être un outil de maintien du lien social. D'ailleurs, je pense que la crise sanitaire qu'on n'avait évidemment pas du tout envisagée nous l'a montré, puisque tout le monde, on l'a vu ces 18 derniers mois, s'est énormément servi du numérique pour rester en contact, que ça soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel. Donc quand on a fait cette étude sur le numérique, en effet, il y avait 4 millions de personnes de plus de 60 ans qui n'utilisaient jamais Internet. On vient de sortir fin septembre un nouveau baromètre sur la solitude et l'isolement, et c'est une des rares bonnes nouvelles de ce baromètre, c'est que l'exclusion numérique des personnes âgées a diminué. Donc il reste, et c'est un chiffre toujours important, 3,6 millions de personnes âgées en exclusion numérique, c'est-à-dire qui n'est pas des personnes qui ne sont pas internautes, qui n'utilisent jamais Internet. Et ce sont majoritairement des personnes du grand âge. Et c'est là où on voit bien que la difficulté est importante, car l'exclusion numérique baisse beaucoup moins pour ces personnes de plus de 85 ans, puisqu'elles sont 64% qui n'utilisent pas Internet. Elles étaient 68% en 2017. Alors la baisse est beaucoup plus importante sur la globalité, mais elle est beaucoup plus faible sur les personnes du grand âge. Et ce sont également des personnes qui ont des revenus faibles inférieurs à 1 000 euros. Il y a bien évidemment un lien entre l'utilisation d'Internet et puis les ressources économiques des personnes.
Alors aujourd'hui, le numérique est un élément essentiel dans les relations humaines et dans le fonctionnement des organisations ou des administrations. Comment finalement ces personnes arrivent aujourd'hui, quand elles sont totalement déconnectées, quand elles n'ont aucun accès à Internet ou qu'elles n'ont pas la capacité, parce qu'il y a aussi des gens qui ont Internet mais qui ne savent pas s'en servir, on appelle ça l'électronisme. Comment ça se traduit dans la vie quotidienne de ces personnes?
Alors, comme vous l'avez dit, l'intérêt du numérique, bon, il y a en effet un outil d'aide au maintien du lien social. Il y a aussi un accès illimité à plein de choses intéressantes, que ça soit l'information, que ça soit des hobbies, que ça soit des passions. Il y a les démarches administratives. Hein, c'est pas moi qui le dis. Il y a eu Jacques Toubon, le défenseur des droits, suivi de Claire Hédon. On est bien sûr de la digitalisation à marche forcée. Hein, en 2022, toutes les démarches administratives vont être numérisées pour des raisons budgétaires. Hein, cette digitalisation, elle laisse des personnes sur leur bord du chemin. En effet, quand on n'a pas Internet, quand on veut faire une démarche, eh bien, on n'y arrive pas. Donc, alors, c'est soit on peut se faire aider, on peut se faire aider par des aidants, par de la famille, par des proches, mais en même temps, quand on est âgé, quand on voit ses capacités diminuer un petit peu plus de jour en jour, c'est extrêmement désagréable.
Quand on est un peu isolé.
Et quand je vais venir après, déjà le fait de ne plus pouvoir faire des choses qu'on avait l'habitude de faire. Il y a plein de personnes âgées, par exemple, les impôts, elles arrivaient à remplir leur feuille d'impôt. Mmh. Maintenant, on doit passer majoritairement par Internet. Donc ça veut dire qu'on rentre dans une espèce de dépendance à l'autre, alors qu'on arrivait à faire cette chose-là avant. Ça, déjà, c'est extrêmement désagréable au niveau de l'estime.
De l'autonomie, il y a une perte d'autonomie.
Autonomie, estime de soi, hein, ça va forcément ensemble. Nous, on s'occupe de personnes âgées isolées qui n'ont pas de proches ou très très peu de proches ou qui ne sont pas en contact avec elles. Donc là, forcément, bah, quand on n'a personne autour de soi, eh bien c'est extrêmement compliqué d'arriver à s'en sortir, puisque n'importe quelle démarche maintenant en effet se fait sur Internet. Alors il y a eu des progrès de fait, hein, puisque une espèce de petit retour en arrière en disant on va peut-être quand même remettre un petit peu de monde, parce que c'est ça qui manque. Donc les pouvoirs publics ont développé les maisons France Service qui sont en train de se développer un petit peu partout, mais on a des personnes âgées, elles n'ont pas les moyens de se déplacer, par exemple. Hein, ça va aussi avec le grand âge. On arrête de conduire, donc on n'arrive plus à se déplacer. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que des initiatives, ce qu'on appelle maintenant le aller vers, c'est-à-dire au lieu que la personne vienne se déplacer, on va aller vers elle. Donc ils ont mis en place des bus mobiles. Ça ne s'est pas fait dès le début et ce n'est pas systématisé partout. Donc ça, c'est une vraie problématique. La crise sanitaire nous a enseigné autre chose, c'est au-delà des pures démarches administratives, maintenant il y a un problème pour les personnes qui n'ont pas Internet, c'est l'accès aux soins, de plus en plus de prises de rendez-vous en ligne. Bon, je vais vous donner l'exemple de la vaccination, hein. il est vraiment frappant.
Il est d'actualité.
Complètement d'actualité. Il a fallu 10 mois au pouvoir public pour proposer une solution alternative avec un numéro vert pour la prise de rendez-vous, parce qu'ils se sont aperçus que les personnes les plus âgées, elles étaient toujours nombreuses, c'est 500 000, je crois, à ne pas être vaccinées. Donc maintenant, il y a un numéro vert qui permet aux personnes d'appeler et d'avoir quelqu'un qui va venir à domicile. Ça a mis 10 mois, hein, depuis.
Et vous faites le lien directement entre les difficultés de vaccination des plus de 80 ans et le fait qu'au départ, on ne pouvait prendre des rendez-vous que sur Internet.
Bah, ça a été très compliqué, faut pas se leurrer. Bon, le début a été laborieux, bon, ce qui est normal. Hein,
oui, de manière générale, mais une fois que les outils ont été mis en place...
Une fois que ça a été mis en place, bien évidemment, les personnes les plus éloignées du numérique, les personnes qui ne savent pas s'en servir, les personnes qui n'ont pas le matériel, hein, bien évidemment, les personnes qui sont isolées, qui sont repliées sur elles-mêmes, qui sont pas forcément bien au courant, eh bien, elles ne savent pas comment faire. Alors elles vont essayer un coup de fil, on va les renvoyer, ce qui arrive très souvent, elles appellent, on les renvoie sur Internet. Donc oui. Au bout d'un moment, voilà, eh ben, au bout d'un moment, elles ne font rien. Nous, nos bénévoles sont attentifs à ça, parce que justement, les bénévoles sont là aussi pour aider les personnes à prendre des rendez-vous. On a de plus en plus, hein, d'équipes de bénévoles qui nous disent, mais même pour un rendez-vous chez un médecin ou à l'hôpital, ça passe maintenant, il n'y a plus de secrétariat médical, ça passe sur Internet. Qu'est-ce que font les personnes qui n'ont pas Internet? Même chose pour les démarches administratives. Quand ça fonctionne, des personnes arrivent, hein, même les personnes qui ont Internet arrivent à s'en sortir. Il suffit qu'il y ait un grain de sable sur un dossier. Eh bien, dès qu'il y a un grain de sable, il faut de l'humain derrière. Et c'est très très difficile de trouver de l'humain derrière. Donc en fait, la prise de conscience de l'exclusion numérique des personnes âgées, et des autres populations, hein, parce qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui sont en exclusion numérique, elle n'est pas maximale. On a l'impression un petit peu pour les personnes âgées, il y a une sorte de défaitisme en disant bon bah les nouvelles générations vont être beaucoup plus à l'aise, ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'on s'est aperçu que sur des tranches beaucoup plus jeunes, hein, déjà à partir de 50 ans, sur des personnes par exemple en très très grande précarité, il y a aussi cette même problématique. Quand on n'est pas à l'aise avec le numérique, quand on est exclu du numérique à 50 ans, il y a peu de chances, si rien n'est fait, que la situation aille en
s'améliore en vieillissant.
Voilà, tout à fait. Autre chose, et on l'oublie aussi, des personnes qui, entre 60 et 80 ans, vont être très à l'aise avec le numérique, l'arrivée dans le grand âge peut faire en sorte que, justement, cette aisance diminue, parce que peut y avoir des maladies, par exemple, et du coup, des personnes qui étaient à l'aise ne le sont plus du tout, à un moment, n'arrivent plus du tout à se servir d'Internet. Faut pas oublier ça, puisqu'on vit de plus en plus âgé, et donc, le but, c'est de rester citoyen jusqu'au bout.
Et donc, ça veut dire aussi que l'association discute avec les pouvoirs publics, alerte les pouvoirs publics, fait des propositions aussi aux opérateurs. On pense aux grands réseaux de téléphonie. On pense aussi à certains peut-être chaînes de magasins qui mettent à disposition des matériels, mais ne mettent pas forcément le mode d'emploi, ou en tout cas n'accompagnent pas forcément le public qui en aurait besoin.
Ah oui, tout à fait. Alors, au niveau des problématiques, ces dernières années, il y avait déjà une problématique d'accès. Ça s'est énormément amélioré, il n'y a presque plus de zones blanches. Maintenant, on parle plutôt de zones grises, c'est-à-dire des territoires où il n'y a qu'un seul opérateur. Du coup, ce qui fait que les personnes n'ont pas le choix, hein, de choisir un opérateur plutôt qu'un autre. Mais ça s'est bien amélioré au niveau de l'accès. Après, il y a le niveau du coût de l'abonnement, du coût du matériel. C'est pas anodin pour des budgets très contraints. Nos petits frères des pauvres, on accompagne des personnes qui ont des petits revenus. Hein. L'isolement des personnes âgées, ça va de pair avec la précarité. Il y a des personnes, elles n'ont pas du tout les moyens d'avoir un abonnement. Et puis, il y a aussi le matériel, un ordinateur ou une tablette, c'est pas anodin. Donc nous, on a fait des propositions, un tarif social. L'Internet, c'est devenu un bien de première nécessité, c'est clair et net. On ne peut pas faire autrement que de l'avoir maintenant, sinon on n'y arrive pas à faire ses démarches, à accéder...
À partir en vacances, pour tout,
faire ses
courses même.
C'est devenu incontournable. Donc nous, on aimerait bien qu'il y ait un tarif social, mais qui permette d'avoir une connexion correcte. Il y a eu, il y a quelques années, des initiatives de mettre des tarifs sociaux, mais où la personne pouvait quasiment rien faire avec Internet.
Des connexions très limitées, quoi.
Ah voilà, c'était vraiment du low cost hein, mais on fait rien. Si on n'a pas une connexion digne de ce nom, maintenant on ne fait plus rien. Après, il y a la problématique du matériel, et donc là, il y a des associations, il y a aussi des entreprises qui proposent du matériel reconditionné pour les personnes les plus en difficulté économiquement. Et là, il faut continuer, bien entendu, à faire ça. Autre chose, c'est on parle beaucoup d'Internet, là on en a beaucoup parlé pour évidemment des choses qui sont très importantes, hein, c'est les démarches en ligne, c'est l'accès aux soins, mais Internet, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toute une ouverture vers le monde, vers les autres. Ça remplacera pas le vrai contact humain, ça c'est clair, je pense qu'on s'en est aussi aperçu pendant la crise, hein. On a pu être connecté sur les outils de visio pendant des mois, dès qu'on a eu l'occasion de voir ses proches, ses amis en vrai.
Des réunions de famille ou pour le travail.
Voilà, tout à fait, donc ça ne remplace pas l'humain, le vrai contact, mais c'est un bel outil d'aide au maintien du lien social. On est dans une société qui a évolué, on ne vit plus à côté de nos proches, on peut être à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Bien évidemment, le numérique est un super outil pour pouvoir rester en contact avec ses proches, pour pouvoir les voir, et ça pour les personnes âgées, c'est évidemment très très important. Nous, ce qu'on a constaté, ça faisait des années qu'on disait, mais mettez Internet dans les EHPAD, c'est un lieu de vie. On a Internet à domicile, il faut avoir Internet dans les établissements. En fait, c'est la crise sanitaire qui a pauvreté cet équipement un petit peu comme il pouvait
des en catastrophe des, sous des la pression.
C'était voilà, c'était parce qu'il y a eu ce confinement complètement hors norme où les personnes âgées des résidents sont restées enfermées et on a vu l'impact que ça a eu de phénomènes de glissement. C'est voilà l'importance du lien social et donc ça, du coup, les établissements se sont équipés. Maintenant, pour que les résidents accèdent à Internet, les moins autonomes, il faut du temps salarié pour les aider à s'en servir. Et donc, il y a une problématique de gestion de personnel dans les établissements. Donc, il va falloir trouver des solutions, parce qu'en effet, si ils ont Internet, mais que les personnes ne peuvent pas s'en servir toutes seules, il faut les aider. Donc, il faut du personnel qui puisse les aider. Donc, c'est des vraies réflexions à avoir. Au niveau des solutions, il faut des solutions alternatives pour les personnes qui ne sont pas internautes, qui ont des difficultés, parce que c'est pas parce qu'on sait se servir d'Internet qu'on n'est pas en difficulté, ça nous arrive à nous aussi, sur certains formulaires administratifs, c'est un peu panique à bord. Bien évidemment, pour des personnes âgées ou qui ont un petit peu de mal ou qui vont avoir un petit peu de mal dans les années à venir, il faut des solutions alternatives, et la solution alternative, c'est de garder l'humain à un moment, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'il y a une dernière solution aussi, c'est que les designers de sites, faut qu'ils pensent utilisateurs, parce qu'ils n'y pensent pas forcément. Il y a des choses toutes simples, il y a des personnes âgées qui arrivent à aller sur des sites, elles savent que l'espace personnel c'est à droite, elles savent qu'après il va falloir cliquer à tel endroit, et puis du jour au lendemain, le site, parce que c'est la mode de faire tel site, c'est la mode de changer régulièrement d'ergonomie, et du jour au lendemain, le site a complètement changé, il y a des personnes du coup qui n'y arrivent plus, parce que ça a complètement changé, et que elles ne savent plus où aller, et ça c'est extrêmement fréquent. Et on n'y pense pas forcément, et c'est vrai que les concepteurs ne pensent pas forcément à ce genre de problématiques, alors qu'on est dans une société vieillissante, mais être vieillissant ne veut pas dire ne pas avoir envie d'aller sur Internet, mais il faut bien évidemment penser à ces personnes-là et penser à leur faciliter la vie.
Merci beaucoup Isabelle Sénécal. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle plaidoyer chez l'association des petits frères des pauvres qui en particulier s'intéresse à la situation des personnes âgées, à l'isolement, lutte contre l'isolement des personnes âgées. On vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions et on se retrouve.
Merci à vous d'aider à porter cette cause de l'isolement et de tout ce qui va autour de l'isolement, et l'exclusion numérique en fait partie.
Merci, on vous a entendu sur Radio Orient et on vous dit à très bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup. Merci.
Merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Cette semaine, l'émission aborde le sujet de la fracture numérique. Dans notre première partie d'émission, notre intervenante Isabelle Sénécal parlait d'exclusion numérique à propos de certaines personnes âgées. Et pour la deuxième partie de l'émission, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Brunet. Bonjour.
Bonjour, merci.
Vous êtes directrice d'études à l'Observatoire des inégalités. Alors peut-être que vous pouvez nous dire deux mots sur l'Observatoire, ses travaux, ses objectifs, et puis ensuite je vous interrogerai sur l'ampleur du phénomène.
D'accord, l'Observatoire des inégalités, c'est un organisme indépendant qui se donne pour mission de dresser un état des lieux des inégalités et de le faire dans tous les domaines. Donc évidemment, on pense immédiatement aux revenus, aux salaires, mais les inégalités, on va pouvoir les observer, les chiffrer, les analyser également en termes d'éducation, de travail, de conditions de vie, de logement, de santé. Et sur la fracture numérique, eh bien là, on est face en effet à une inégalité qui évolue rapidement et qui constitue un des sujets sur lesquels on essaye de faire le point avec des données et les éléments de compréhension des données statistiques.
Alors, pour engager l'échange sur le sujet, en 2022, toutes les démarches administratives seront digitalisées. Parallèlement à cela, il y a déjà énormément de services pour le voyage, pour les loisirs, pour la culture, même pour l'éducation, qui ne sont pratiquement plus accessibles qu'en ligne. C'est pratiquement impossible aujourd'hui de trouver une agence de voyage. Enfin bon, donc il y a des choses qui évoluent extrêmement vite et qui passent, je dirais, de services physiques à des services à distance. Qu'est-ce que ça implique en matière d'exclusion? Parce qu'on imagine très bien que pour des raisons matérielles ou de connaissances, de capacités, il y a de fait énormément de gens qui sont exclus de l'accès à ces services.
En effet, mais peut-être qu'avant de parler de l'exclusion, il faudrait aussi souligner que cette digitalisation des démarches administratives, par exemple, ou cet accès, cette démocratisation finalement, cet accès d'une part de la population de plus en plus importante et majoritaire au numérique, à Internet, à des informations, c'est aussi un progrès. C'est-à-dire que ça permet à des personnes éloignées des villes d'accéder à ces démarches sans en avoir à se déplacer. Ça permet à un grand nombre de personnes d'accéder à des informations, de se poser des questions, de trouver des réponses à des questions qu'ils n'oseraient pas forcément poser sur leur santé, d'apporter une aide aux devoirs aux enfants, de pouvoir suivre son compte plus facilement. Des usages qui sont aussi extrêmement répandus dans les catégories populaires les plus défavorisées et qui donnent accès à des services et des informations auxquelles ils n'avaient pas accès avant. Donc le numérique, c'est pas tout noir. En effet, on va voir que plus l'usage se répand, plus l'équipement est largement accessible à une grande partie de la population, plus le fait d'en être exclu constitue un handicap social important. Mais c'est un peu, vous voyez, il y a les deux dimensions en même temps en matière d'inégalité. Les inégalités se réduisent. Il y a de plus en plus, une part de plus en plus importante de la population qui a accès à Internet et à ses outils numériques. C'est aller très vite. Et puis, en même temps, si la numérisation des démarches administratives qui est indispensable, elle se fait au détriment de ceux qui n'ont pas accès aux outils nécessaires pour y accéder, qu'ils soient, comme vous l'avez dit, en termes de compétences ou d'équipement, ça exclut de façon très violente une part de la population.
Alors, on est quand même sur un chiffre qui est d'ailleurs donné par Emmaüs, 13 millions de Français qui n'ont pas accès à Internet. Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire tous les apports positifs, et évidemment, on se rend bien compte, même si parfois on s'en rend plus compte d'ailleurs, puisque c'est devenu tellement intégré dans nos vies quotidiennes que on a énormément de possibilités qui sont désormais offertes grâce à Internet. Néanmoins, en France, 13 millions de Français qui n'ont pas accès à Internet, en tout cas pas chez eux, donc probablement pas régulièrement, c'est quand même un chiffre qui est important.
Oui, alors on a différentes sources qui peuvent donner des estimations qui varient entre 10 et 20% de la population qui n'a pas accès ou qui n'utilise pas Internet. Selon qu'on regarde des questions d'équipement, est-ce que je peux matériellement me connecter chez moi à Internet, que ce soit par un smartphone ou par un ordinateur, est-ce que je le fais dans les faits, est-ce que je l'utilise. Cette exclusion d'Internet, elle peut prendre plusieurs formes, plusieurs dimensions. Il y a d'abord l'équipement, est-ce que j'ai un ordinateur ou au minimum un smartphone pour me connecter. À quoi je l'utilise, Tout le monde n'utilise pas Internet pour les mêmes choses. Et puis, on peut être capable de jouer à un jeu en ligne, de regarder une vidéo sans que ça veuille dire qu'on ait toutes les compétences nécessaires pour utiliser cet outil. Et puis, donc, on arrive ensuite à l'évaluation des compétences. Et désormais, l'INSEE nous fournit des données sur l'exclusion numérique, mais cette fois en termes de compétences, est établi qu'il y aurait près d'une personne sur 5 en France qui n'aurait aucune compétence ou aucune utilisation d'Internet. Alors ces écarts, on va les trouver d'abord, et que ce soit l'équipement ou les compétences, on va les trouver d'abord en termes d'âge. Ce sont des situations beaucoup plus fréquentes. Vous avez dû en discuter tout à l'heure avec votre interlocutrice.
On en a parlé, en particulier les personnes de plus de 80 ans, où là l'exclusion est très forte.
Donc nous, on a des données ben, pour les plus de 70 ans, pour les plus de 75 ans, selon la source. Hein. Par exemple, l'INSEE nous dit qu'il y a 71% des 75 ans ou plus qui n'ont aucune compétence ou aucune utilisation d'Internet. Et là, c'est ce qu'on va retrouver sur beaucoup d'autres indicateurs d'équipement ou d'usage. Les personnes âgées, et plus elles sont âgées, moins elles utilisent Internet et moins elles sont même, elles ont la possibilité matérielle de le faire. Chez les jeunes, ça ne veut pas dire que la fracture numérique n'existe pas. Elle va prendre la forme d'une fracture plus sociale, où là, le niveau de diplôme, encore plus que le niveau de revenu, hein, mais c'est vraiment le niveau d'éducation, le niveau de diplôme qui va avoir un effet sur les inégalités entre les jeunes. Bon, alors, il faut pas perdre de vue que tout de même, ce taux, je vous disais 71% chez les 75 ans ou plus, il est beaucoup plus faible, hein, chez les moins de 30 ans, il est plutôt de l'ordre de 2%. Mais en revanche, pour un jeune, ne pas avoir accès à ces outils, mais on peut se dire que c'est très probablement beaucoup plus grave que pour une personne très âgée.
C'est aussi un facteur d'exclusion pour les études.
Voilà, pour les études, l'éducation, pour trouver du travail. Et puis ensuite pour trouver du travail. Et vous le disiez tout à l'heure aussi, même pour se déplacer, parce que là on est sur un sujet avec les billets de train ou d'autres sujets où ça devient quand même compliqué quand on n'a pas accès à Internet d'accomplir ces démarches tout à fait quotidiennes. Donc c'est pas parce que les jeunes sont nés avec un smartphone dans les mains, on pourra avoir cette impression parfois, qu'ils peuvent pas être exclus pour des raisons d'éducation ou de moyens financiers de l'accès à ces outils. Et puis si on regarde encore plus finement dans les usages, ben ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est pas parce que ils sont dans les 98% qui ont des compétences au moins au minimum faibles, mais qui sont capables d'accomplir une démarche, une recherche d'emploi, de produire un mail ou un document sur un ordinateur. À l'intérieur des usages numériques, il y a toute une panoplie, hein, qui va de pouvoir être capable de consulter une vidéo à pouvoir en effet, hein, produire un CV par exemple, et qui n'est pas mesuré par les chiffres que je vous donnais tout à l'heure.
Alors effectivement, on a des données assez précises sur on va dire un Français sur cinq qui est à minima en difficulté pour utiliser les outils numériques, soit parfois exclus pour des raisons matérielles tout simplement, et c'est le cas notamment des étudiants les plus précaires. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'ampleur du phénomène est pris en compte par les pouvoirs publics et que les associations, on l'a vu, sont déjà, je dirais, à l'œuvre. Est-ce que au niveau des collectivités, des entreprises, des acteurs de terrain et de l'État, il vous semble qu'on a des réponses qui permettraient d'aller vers au moins la résorption d'une partie de cette exclusion numérique?
Ben, pour le moment, on peut avoir le sentiment que ce sont surtout les travailleurs sociaux qui pour un certain nombre sont des fonctionnaires, hein, mais qui se retrouvent en charge de gérer ces questions de démarches administratives, en particulier d'être capable d'accomplir des démarches, de retrouver les mots de passe, etc. Alors qu'au fond, ils n'ont pas été formés pour ça, et puis c'est pas leur métier, c'est pas leur travail. Donc il reste un effort important de la part de la collectivité à fournir, hein, il me semble, qui peut aller dans plusieurs directions. D'abord, créer des métiers, hein, alors il en existe évidemment, mais à généraliser et puis créer systématiquement des appuis pour l'accès aux outils informatiques, en particulier aux démarches administratives, et puis de la part de l'État, mieux concevoir tout simplement les formulaires, les simplifier, et les applications, pour que le plus grand nombre puisse l'utiliser sans avoir besoin de se référer à un interlocuteur. Tester les formulaires, concevoir des applications qui ne soient pas gourmandes en espace sur des smartphones déjà obsolescents, créer des démarches qui soient utilisable quand on est plutôt connecté via un smartphone que via un ordinateur avec l'imprimante, le scan, etc. Concevoir toutes ces démarches pour qu'elles soient réalisables facilement sur un téléphone, ben ça reste un effort qui va au-delà de numériser les démarches, hein, mais de les faire pour qu'elles soient plus simples. Et puis, conserver un accès pour toutes les personnes âgées en particulier, hein, qui ne seront pas en capacité de faire cet effort, que ce soit d'équipement ou de compétences. Hein, parce que tout à l'heure, je disais, il y a deux freins, il y a l'éducation, le niveau de diplôme et puis l'âge, mais il ne faut pas oublier que ces deux freins, ils sont très souvent liés. Les personnes âgées, elles ont un niveau d'éducation, un niveau de diplôme qui, globalement, en moyenne, dans la population, est moins élevé que les jeunes qui sortent aujourd'hui de l'école. Donc, on va avoir affaire à des personnes qui sont à la fois peu formées sur ces outils, hein, puisque leur éducation, elle date d'il y a longtemps, et puis aussi âgées et pas forcément motivées, là, tout de suite, pour avoir un smartphone ou accès aux réseaux sociaux. Et leur frein, il va être surtout sur les démarches administratives. Donc, pour toutes ces personnes-là, il faut conserver dans les administrations, partout, des interlocuteurs bien humains qui puissent les accueillir et leur permettre de réaliser leur démarche. Évidemment, c'est une question essentielle d'accès aux droits.
Alors, le paradoxe de la digitalisation, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui bien beaucoup de guichets ou de hotlines même, d'interlocuteurs physiques qui sont remplacés par tout un tas de plateformes et de services en ligne. Et aujourd'hui, il semblerait que on soit au début de la conscience de cette difficulté, puisque dans le cadre du plan de relance, l'État va financer pour 250 millions des conseillers numériques dans les maisons France Service. C'est paradoxal. D'un côté, on a enlevé, supprimé, fermé, digitalisé beaucoup de choses, et là maintenant, on se rend compte que sous l'effet d'une fracture numérique, il faut peut-être remettre de l'humain, et y compris des gens dédiés à l'accompagnement des personnes en difficulté avec le numérique.
Oui, en effet. Je ne sais pas trop comment commenter votre votre remarque. Ça me paraît assez juste, c'est-à-dire que à la fois, ben, la numérisation de ces démarches administratives, probablement pour une partie de la population, elle constitue un progrès. Elle permet de mieux y avoir accès, en particulier quand on est à distance. C'est plus économique, plus rapide de le faire à toute heure de la journée ou de la nuit, de le faire à distance sans avoir à se déplacer. Et puis en même temps, ben, on ne peut pas ignorer le fait qu'une partie de la population ne peut pas le faire ou doit l'apprendre. Il faut aussi penser à l'éducation des plus jeunes, parce que c'est comme je vous disais, hein, ça va pas de soi d'utiliser un formulaire, ça va pas de soi d'écrire un mail. Et là, même si on a l'impression au travers des statistiques que tous les jeunes sont nés connectés, eh bien, ils sont très peu formés à l'utilisation des formulaires, des démarches, à l'identification des sources. Alors même que bien souvent dans les familles les plus modestes ou dans les familles immigrées, ce sont souvent les enfants qui peuvent aider leurs parents à accomplir ces démarches. Donc il faut aussi se soucier
de la petits-enfants qui accompagnent
les grands-parents, des enfants et des jeunes pour résorber ces écarts à l'avenir, même si l'équipement va continuer sans doute d'être de moins en moins cher, les campagnes vont être mieux connectées, etc. dans les années qui viennent. Il faut aussi se soucier des compétences.
Oui, parce qu'en plus, on peut penser raisonnablement que la digitalisation et la mise en ligne de tout un tas de démarches, de services et du fonctionnement global de la société va continuer à s'accentuer dans les années qui viennent. Donc de toute façon
comme dit, c'est pas forcément en soi, c'est pas quelque chose de mauvais, hein, en termes.
C'est pas mauvais, mais ça peut laisser des personnes sur le bord du chemin. Et dans le monde de cette semaine, il y avait un titre qui faisait sens par rapport à l'émission, c'était les naufragés de la Startup Nation et les gens justement qui étaient un peu perdus par rapport à ces évolutions. Merci beaucoup Anne Brunet. d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice d'études à l'Observatoire des inégalités. Et c'est la fin de notre émission consacrée à l'exclusion numérique. Merci d'avoir accepté notre invitation, Anne, et puis à très bientôt. Vous êtes sur Radio Orient dans l'émission Et si on en parlait.
Merci.
Au revoir, merci beaucoup.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.